Bonjour à tous. Alors nous poursuivons dans l'Exode et nous sommes au chapitre 7 aujourd'hui. Mais depuis le chapitre 3, il y a quelque chose qui se déroule. Dieu appelle inlassablement Moïse à le servir. Inlassablement, il lui rappelle qu'il veut que Moïse parle pour lui. Et au fur et à mesure de ces chapitres, nous avons nous aussi entendu cet appel. Cet appel à annoncer la parole de Dieu autour de nous. Mais ce que nous avons vu aussi dans le chapitre précédent, au chapitre 6, c'est que ça se passe mal. C'est un échec pour Moïse. Il y avait déjà eu un premier échec il y a 40 ans, où Moïse s'était vu comme le libérateur du peuple. Il avait choisi finalement de renoncer à sa position de prince pour adhérer à ce peuple, pour sauver ce peuple. Mais sa colère l'a conduit au meurtre, puis à l'exil. De prince d'Égypte, il est devenu un simple berger. Il a renoncé à toutes ses prétentions. Et Dieu vient à sa rencontre. Dieu le convainc de remonter en Égypte. Mais là, c'est un deuxième échec. Son peuple même refuse de l'écouter. Un échec que Moïse interprète comme étant un échec personnel. Il est obsédé par son incapacité à parler. Il comprend que s'il a échoué, c'est de sa faute. C'est parce que sa bouche n'est pas capable d'annoncer correctement ce que Dieu lui a dit. Au chapitre 6, au verset 12, il dit « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment est-ce que le Pharaon va m'écouter ? Moi, qui n'ai pas la parole facile. » Au verset 30, il ajoute « J'ai pas la parole facile, mais comment est-ce que le Pharaon va m'écouter ? Est-ce que Dieu, tu vas entendre que je suis pas fait pour ce que tu me demandes ?» Et c'est peut-être notre cas à nous aujourd'hui. Nous avons sincèrement cherché à parler de Dieu à nos proches, nos voisins, nos amis, mais c'est l'échec. Et nous avons fini par comprendre que ce n'est pas notre place. Nous ne sommes pas doués pour cela. Il y a peut-être des évangélistes qui existent, mais pas nous. Nous n'avons pas la parole facile. Dans notre texte d'aujourd'hui, à aucun moment, Dieu ne remet en cause les difficultés de Moïse, mais il veut lui apprendre trois choses. La première chose, c'est que Dieu n'a pas besoin de nos dons, mais de notre obéissance. La deuxième chose, c'est que Dieu n'a pas besoin de nos succès, il poursuit son propre plan. La troisième chose, c'est que Dieu n'a pas besoin de notre force, il a déjà vaincu l'ennemi. Je vous encourage à lire avec moi dans Exode au chapitre 13. Nous allons lire les versets 1 à 13. Je suis page 43. Exode 7, j'ai pas dit Exode 7, c'est ça ? Exode 7, excusez-moi. L'Éternel dit à Moïse : Regarde, je te fais Dieu pour Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, j'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple. Les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte et je ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron : Si le Pharaon vous dit, faites un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton, jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages, des sorciers, des magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur sortilège. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci se changèrent en serpent. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit. Il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Premier point, Dieu n'a pas besoin de nos dons, mais de notre obéissance. J'aimerais que nous regardions ce que dit l'Éternel au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète. » Et ce n'est pas une erreur de traduction. Il est bien en train de dire que Moïse va être fait Dieu pour Pharaon. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors on l'a déjà évoqué, mais un des principes religieux de l'Égypte, c'est que les pharaons sont des incarnations de Dieu. Finalement, Pharaon est un dieu sur cette terre. Alors c'est vrai que pour Moïse, ça risque d'être compliqué de se faire écouter par Pharaon. Pourquoi est-ce que Pharaon irait écouter ce berger qui fait partie de ce peuple d'esclaves, ce berger qui a fui pendant 40 ans dans le désert ? Moïse le sait. Il le sait depuis longtemps. Pharaon ne m'écoutera pas. Je n'ai pas la capacité à le convaincre. Si au moins, peut-être, j'étais un homme charismatique, quelqu'un qui sait parler, peut-être tu aurais un faible espoir de pouvoir faire changer Pharaon. Mais là, non. Il n'y a aucune chance que Pharaon bouge, qu'il entende quoi que ce soit. Regarde, je ne suis même pas capable de parler, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui parle à ma place. Dieu avait prévu à Aaron. Il avait prévenu Moïse que quelqu'un parlerait pour lui. Mais Moïse n'avait pas encore compris pourquoi. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Un jour, le pape doit se rendre à une importante réunion. Et au moment de rentrer dans la voiture, il dit à son chauffeur, « Non, aujourd'hui, c'est moi qui conduis. » Le chauffeur est un peu étonné, mais bon, qu'est-ce que vous voulez répondre à un pape ? Et il le laisse prendre le volant de la voiture. Et puis, ils cheminent en ville, et puis tout d'un coup, un gendarme les arrête. Le gendarme s'approche, se penche à la vitre du conducteur, devient blanc, repart vite à sa voiture de patrouille, et il leur dit « Ah ! Je ne sais pas qui est dans la voiture, mais le chauffeur, c'est le pape !» Et il est désarçonné. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Je ne sais pas qui c'est qu'on a là. Mais il a un prophète, il est un Dieu. Dieu va donner à Moïse une place de Dieu à Pharaon. Il devient lui-même l'incarnation de Dieu sur cette terre, le représentant de Dieu sur cette terre. Il est l'égal de Pharaon, il peut se tenir debout devant lui sans faillir. Et c'est la première chose que je voudrais que nous voyons ensemble. Dans les mains de Dieu, ma faiblesse spécifique peut devenir le moyen que Dieu va utiliser pour son plan. Parce que Moïse bégayait, Dieu lui a donné à Aaron. En lui donnant à Aaron comme prophète, il a fait de lui un dieu aux yeux de Pharaon. Moïse aurait aimé être un orateur. Il aurait aimé avoir le charisme, les mots qui renversent Pharaon. Mais Dieu n'a pas besoin de nos qualités ni de notre talent. L'appel de Dieu est toujours accompagné du don de Dieu pour accomplir le service auquel il nous appelle. Ce don peut être un talent qu'il nous donne, mais également une personne. Peut-être le mari, la femme que Dieu a mis à vos côtés. Peut-être un partenaire dans le service, quelqu'un qui transfigure votre faiblesse pour faire ressortir la seule chose que Dieu attend réellement de vous. L'obéissance. Regardez ce qui suit directement cette affirmation de Dieu. Je te fais Dieu pour Pharaon. Toi, tu lui diras tout ce que je t'ordonnerai et ton frère Aaron parlera au Pharaon. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas notre talent, mais le fait que nous nous attachions exactement à rendre le service pour lequel il nous a appelés, à ce que nous disions exactement les paroles qu'il a mises dans son livre et qu'il nous a transmis, la parole de Dieu. Deuxième chose, Dieu n'a pas besoin de nos succès, il poursuit son propre plan. La deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est que finalement notre vocation n'est pas d'être les instruments par lesquels Dieu remporte la victoire. Dieu remporte lui-même ses victoires. Dès que le contrat avec Moïse et Aaron est clair, Dieu leur donne une nouvelle indication. Et elle est presque aussi détonnante que le premier verset. Regardez le verset 3. « Parlez à Pharaon, dites-lui ce qu'il doit laisser partir mon peuple, et puis, ben moi de mon côté, je ferai en sorte qu'il ne vous écoute pas. » Tu mets, attendez, j'ai bien lu. « Dis-lui qu'il faut qu'il laisse partir mon peuple. Ça, c'est votre travail. Et moi, le mien, c'est de faire en sorte qu'il ne vous écoute pas. » Imaginez-vous une seconde à la place de Moïse. Dieu est venu le chercher dans le désert. Il lui a dit, il faut que tu viennes chercher mon peuple, il faut que tu ailles le libérer. Il le convainc, il lui a raconté toutes les excuses qu'il pouvait. Et Dieu lui dit, non, je veux que tu ailles lui dire ça. Et maintenant que Moïse est prêt à le faire, il dit, bah, quand tu l'auras fait, moi je ferai en sorte que ça ne marche pas. La compréhension de Moïse du service était basée sur le succès. Et c'est aussi ce que nous comprenons souvent. Lorsque nous parlons à un ami de notre foi, que nous prions pour lui et qu'il ne nous écoute pas, nous y voyons un échec. Et comme Moïse, nous disons à Dieu, tu ne m'y reprendras pas. Une fois, ça suffit. Même les Israélites, qui auraient dû être faciles à convaincre, ne m'ont pas écouté. Tu sais, même dans ma famille, ils ne m'écoutent pas. Mes enfants ne m'écoutent pas. Mes parents ne m'écoutent pas. Mes frères et mes sœurs ne m'écoutent pas. Tu sais, même tous ceux qui me sont proches et qui voient ma foi ne m'écoutent pas. C'est fini pour moi. Passe à autre chose. Notre conception de la réussite est souvent erronée. Nous pensons souvent que le seul but de l'évangélisation, c'est que les personnes se convertissent. Mais ce n'est pas l'unique but. L'évangélisation a également pour but de confirmer l'incrédulité des hommes. Dieu annonce qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Mais regardons concrètement ce qui se passe. Regardez, on va juste aller un tout petit peu plus loin. Verset 13. Le cœur du Pharaon s'endurcit. Il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel avait dit. C'est embêtant ça. Parce que il dit, je vais endurcir le cœur du Pharaon. Et au verset 13, il dit, il s'est endurci tout seul et ça s'est passé comme je l'ai dit. Étrange, non? Qu'est-ce que cela veut dire que d'endurcir son cœur? On parle pour certaines femmes du déni de grossesse. Elles sont enceintes, mais elles n'accepteraient pas leur grossesse au point même que finalement leur corps ne marquerait même pas les marques de la grossesse. Le ventre ne grossit pas, les seins ne se préparent pas à l'allaitement, la mère ne sent jamais son bébé s'agiter dans son ventre, mais finalement, un jour, elles finissent par accoucher. Des fois seules, surprises par l'arrivée du bébé, qu'elles n'ont jamais réalisé. Pourtant, ce jour-là, elles le voient, elles le tiennent dans les bras. L'évidence est là, elles sont maman. Pour Pharaon, il en est exactement de même. L'évidence est là devant ses yeux. Il ne peut pas le nier. Alors, il endurcit son cœur. Il se renforce dans son refus de l'évidence. Et ce n'est pas fini. Il endurcira son cœur après la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième plaie. Mais ensuite, c'est Dieu qui endurcira son cœur. En fait, c'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. De notre point de vue, c'est nous qui résistons. Du point de vue de Dieu, c'est lui qui assume son entière souveraineté et qui ne touche pas le cœur, qui ne transforme pas le cœur. Nous lisons dans Ésaïe 55 cette affirmation de Dieu. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et souvent, ce verset est utilisé pour dire que la parole de Dieu doit forcément toucher les gens, qu'elle doit forcément toucher les cœurs, qu'elle doit forcément changer quelque chose en eux, et qu'ils vont s'approcher de Dieu. Alors que ce verset, sans même parler de son contexte, ne fait que dire que la parole de Dieu exécute sa volonté. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière est. Dieu n'est pas limité dans sa puissance. sa parole accomplit totalement sa volonté. La parole de Dieu peut, suivant sa volonté, renverser les cœurs, les attirer à lui, comme elle peut révéler, exacerber l'incrédulité. Elle peut adoucir les cœurs comme elle peut les endurcir. Et Jean-Noël a lu ce texte dans Ésaïe 6, au verset 1, qui dit que à Ésaïe, il l'appelle à parler pour lui, il l'appelle à parler pour le peuple, et il lui dit « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, ferme-lui les yeux. » Paul nous parle de cet épisode dans sa lettre aux Romains au chapitre 9. Et voici ce qu'il dit au verset 15. « En effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. » L'Écriture dit en effet au Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Dieu lève là un voile, un coin du voile sur son plan. Il dit que cet épisode-là, il l'a voulu bien avant que Pharaon naisse, qu'il a suscité Pharaon pour cela, parce qu'il a un plan qui dépasse Pharaon, un plan qui concerne l'humanité entière et qui va se tracer, se développer à partir de ce moment-là. Vous savez ce que dira Rahab 40 ans plus tard ? Nous savons qui est Dieu. On a entendu dire ce qu'il a fait en Égypte. Rahab est une des descendantes de Jésus-Christ. Enfin, une descendante, une ascendante. C'est mieux comme ça. Dieu poursuit un plan et Pharaon était dans ce plan-là et son endurcissement faisait partie de ce plan-là. De son point de vue, Pharaon est un homme puissant. Il est même sans doute à ses yeux l'homme le plus puissant qu'il connaisse, le plus puissant de la terre. Il règne en maître, il ne partage pas son pouvoir. C'est un face-à-face entre deux rois que nous avons là. Les deux veulent affirmer leur souveraineté totale. Mais un seul est réellement souverain. L'autre n'est qu'un pantin. Celui qui est souverain, c'est notre Dieu. C'est un point de vue extrêmement rassurant quand nous le servons. Nous annonçons l'Évangile et Dieu règne. Nous annonçons l'Évangile et Dieu est souverain sur sa parole. Est-ce que nous en sommes pleinement convaincus ? Rien ne se passe sur cette terre sans qu'il ne le permette, sans que cela contribue d'une manière ou d'une autre à son plan parfait. Ce plan qui est tracé de toute éternité vers l'éternité. Lorsque nous annonçons sa parole, il sait exactement ce qu'il veut obtenir par cette parole et il l'obtient. Voici ce que Dieu dit à Moïse. Après lui avoir dit que son discours ne convaincrait pas Pharaon, il lui dit, mais tu sais, je vais faire quelque chose. J'ai un plan, t'inquiète pas. La première réponse de Pharaon à Moïse a été directe. Ton Dieu, je ne connais pas. Et voici ce que dit Dieu. Maintenant, tu vas me connaître. L'Égypte va me connaître. Le monde va me connaître au travers de ce que je vais faire en Égypte. J'arracherai par ma seule puissance mon peuple qui sortira en vainqueur. L'Éternel, l'Égypte, reconnaîtra que je suis l'Éternel. Troisième chose que je voudrais que l'on voit dans ce texte. Dieu n'a pas besoin de notre force. Il intervient dans un combat qui nous dépasse. Après avoir cette grande affirmation du plan de Dieu qui va lui-même finalement arracher son peuple, et finalement ce qu'il attendait de Moïse, ce n'était pas qu'il convainque Pharaon. Voici ce qu'il dit. On a une scène avec ce serpent qui arrive. Et avant même cette scène, il y a une petite phrase qui arrive là au milieu. Nous avons cette phrase qui dit « Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. » Et puis tout de suite, on a l'épisode des serpents. Et on se dit « Mais pourquoi ça ?» Et puis, il y a quelque chose d'étonnant que je voudrais que vous voyiez dans le texte avant que j'avance. Regardez comment c'est écrit à partir du verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si le Pharaon vous dit « faites un miracle », tu ordonneras à Pharaon, etc. D'accord ? Il lui raconte ce qui va se passer. Et puis quand on arrive au verset 10, on a changé. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon. On passe dans l'exécution. Donc, Dieu est encore en train de parler à Pharaon, à Moïse est en train de lui expliquer ce qui va se passer. Et tout d'un coup, il interrompt son explication, il ne donne pas toute l'explication, et on a l'exécution qui vient. Première chose, pourquoi Moïse, lorsqu'il écrit, qu'il raconte cette section, vient rappeler au milieu que lui et Aaron ont 83 ans. Alors je voudrais vraiment vexer personne, mais ce que Moïse veut souligner, c'est qu'il est vieux, qu'il est au bout du rouleau. Le contraste est d'aller parler à Pharaon. Ça peut aller, 83 ans, il pouvait encore faire ça. Mais il est en train de comprendre que c'est plus tout à fait la même chose que Dieu est en train de lui demander. C'est pas juste d'aller parler à Pharaon, c'est de sortir en armée d'Égypte. Et là, Moïse, il est vieux. Regardez ce qu'il dit dans le psaume 90. « Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. » Pour lui, il est à la fin de sa vie. Et le combat qu'il va jouer, ça ne peut pas être lui qui peut le mener. Ça veut dire que ce n'est pas à 80 ans que je vais m'engager dans une guerre avec l'Égypte. Je ne peux pas faire ça. Et maintenant, si c'est encore possible, j'aimerais que vous preniez cela comme un encouragement. Et peut-être plus spécialement les personnes âgées parmi nous, et peut-être plus spécialement si vous avez plus de 80 ans. En vieillissant, Dieu nous propose de nouvelles façons de le servir. Et il semble que c'est notamment le cas pour la prière. Pour deux raisons. Parce qu'en vieillissant, nous devenons plus sages, moins accaparés par le monde, ses passions. Regardez ce que Jacques dit au chapitre 4. « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. » Et en vieillissant, cet aspect-là commence à changer. On commence à demander mieux. On a vu comment Dieu a agi pendant 80 ans de notre vie. On commence à comprendre ce que veut Dieu. On commence à comprendre sa manière d'agir. Et on commence à demander des choses qui sont plus conformes à ce qu'il veut. On va peut-être plus prier directement pour la guérison, mais on va prier pour la foi. On va changer notre façon de prier. L'Église a besoin des prières de tous, mais elle a plus particulièrement besoin de la prière des hommes et des femmes sages. Et ces hommes et femmes sages s'approchent des 80 ans. Voici le cœur maintenant de cet épisode, avec à nouveau une affirmation assez étonnante de Dieu. Dis-moi, Moïse, au fait, si jamais il te demande un miracle, tu n'auras qu'à dire à Aaron de jeter son bâton. Dis, mais Dieu vient de montrer jusque-là qu'il était souverain, qu'il maîtrisait toute chose, que c'est lui qui allait tout faire, qu'il était au courant de tout, j'endurcirais, etc. Et puis là, il fait un peu l'étonné. Si jamais il te demande un truc, bah, t'as qu'à lui dire de jeter ton bâton, et puis on verra bien ce qui se passe. Et aucune explication. Plus rien. Et puis on a Moïse qui y va. Et ce coup-ci, le texte est raconté, ils jettent leur bâton. Dieu veut nous montrer par avance l'inutilité de ce miracle. Pharaon n'est pas en train de demander un signe pour croire, il est en train de demander un signe pour ne pas croire. Pharaon n'est pas du tout en train de chercher à voir s'il peut croire Dieu. Pharaon est en train de vouloir renforcer son incrédulité. D'ailleurs, même devant les faits, même devant le miracle exécuté, il ne renoncera pas à son incrédulité. Alors, demande juste à Aaron jetait son bâton. Tu sais ce qui se passe quand on jette un bâton? Ça fait un serpent. Et Moïse, regarde. Regarde ce qui va se passer. Parce que toi, tu as quelque chose à apprendre aujourd'hui. Parce qu'effectivement, le bâton se change en serpent. Mais aussitôt après, Pharaon appelle ses sages, ses magiciens, ses sorciers. Et ils arrivent. Et ils ont tous des bâtons. Et ils jettent tous leurs bâtons. Et ils se changent tous en serpent. Mais le bâton d'Aaron les engloutit. Que devons-nous comprendre de cela? Que le message était plus pour Moïse et Aaron que pour Pharaon. Ils doivent savoir contre qui ils combattent. Pour Moïse, depuis le début, c'est une histoire de savoir comment bien parler pour convaincre le Pharaon. Mais Dieu lui révèle qu'il s'agit de bien plus que cela. En faisant apparaître un serpent, il y a une double allusion. Il y a une allusion assez évidente à Pharaon, qui portait sur son diadème un cobra qui était dressé et qui était prêt à cracher son venin. Et ce cobra symbolisait à la fois Ré et à la fois la princesse Ouadjet. Et il y avait deux significations. La première signification, c'était la puissance destructrice qui était au service de Pharaon. Pharaon, représentant des dieux sur terre, a une puissance derrière lui, des dieux pour anéantir ses ennemis. La deuxième, c'était la protection de la déesse Ouadjet, qui symbolisait l'inondation du Nil qui était nécessaire à la vie. Et on verra que très rapidement, le Nil va prendre une claque. Mais il y a une deuxième allusion. Qui a écrit la Genèse? Moïse. Quand on parle de serpent, Moïse, il devait tout de suite avoir une idée. Hein. Tout de suite, il n'a pas pu ne pas penser au serpent du jardin. Il n'a pas pu ignorer ce que Dieu était en train de lui montrer. Le véritable ennemi, c'est pas Pharaon, c'est celui qui se cache derrière lui. C'est Satan, le prince de ce monde, celui qui agit en coulisses dans ce monde. Le Pharaon est peut-être roi d'Égypte, mais ce monde a un prince, c'est Satan. Par cette scène, Dieu montre à Moïse et à Aaron quel est le véritable enjeu de la bataille. C'est une lutte entre Dieu et Satan. L'Exode, c'est le rachat de Dieu par son peuple. Un peuple qui est esclave de Pharaon pour qu'il le prenne et l'emmène vers le pays promis où le peuple servira Dieu, le Dieu vivant et vrai. Ce rachat, c'est l'enjeu d'une guerre. Et dans cette guerre, Satan n'est pas sans armes. Les sages, les sorciers, les magiciens s'opposent à Dieu en imitant les miracles de Dieu. C'est juste une parenthèse sur les miracles. Ce qui est important dans un miracle, ce n'est pas la puissance du miracle, c'est vers qui il pointe. Peut-être que vous verrez des miracles dans votre vie. Peut-être que vous verrez des gens guérir ou des choses comme ça. Posez-vous une question importante. Vers qui ce miracle pointe-t-il? Est-ce qu'il est en train de glorifier un homme? Est-ce qu'il est en train de glorifier une religion? Est-ce qu'il est en train de glorifier une église? Est-ce qu'il est en train de glorifier un système? Ou est-ce qu'il est en train de glorifier Dieu? C'est beaucoup plus important de répondre à cette question que de savoir si le miracle est important ou pas. Dieu produit un serpent. Ils produisent des serpents. Satan est un contrefacteur. Dans la deuxième lettre à Timothée, Paul affirme que Satan peut produire toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Après nous avoir souligné finalement sa propre faiblesse, Moïse nous montre le véritable ennemi, celui qui se tient là. Et ça nous rappelle les lettres de Paul aux Éphésiens. Éphésiens 6, 10. « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsque nous annonçons l'Évangile, c'est un combat qui nous dépasse complètement. Complètement. C'est un combat qui est totalement inégal. C'est un combat que nous ne pouvons pas remporter sans nous appuyer sur la seule puissance de Dieu. Ce n'est pas une discussion neutre, on n'est pas en train de raisonner à court d'arguments, savoir si Dieu il existe ou pas, etc. Les arguments sont utiles, mais ce ne sont pas eux qui, in fine, changent le cœur des gens. Moïse pensait que s'il avait eu un certain talent oratoire, peut-être qu'il aurait pu convaincre Pharaon. Les personnes à qui nous annonçons l'Évangile ne sont pas libres, elles sont esclaves du prince de ce monde. Nous sommes faits pour adorer. Nous sommes créés pour adorer. Nous sommes par nature des adorateurs. Mais lorsque nous n'adorons pas Dieu, nous adorons autre chose. Et lorsque nous adorons autre chose, Satan revendique cette rébellion comme un culte à lui-même. C'est pas neutre. Pour pas dire, moi, Dieu, c'est pas dans mon paysage. Si, si. Si tu n'adores pas Dieu, tu es en train d'adorer Satan. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais tu le fais. Derrière les faux dieux, Satan est toujours là comme le vainqueur de notre rébellion contre Dieu. Autrefois, vous ne connaissez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas, affirme Paul aux Galatiens. Mais le serpent d'Aaron engloutit les leurs. Et Paul utilise un verbe qui est bizarre, parce qu'on aurait pu dire il a mangé les autres serpents, on aurait pu dire il a dévoré les autres serpents, je n'ai pas cherché d'autres synonymes, mais il doit y en avoir plein. Mais on n'aurait pas pensé à englouti en fait. Personne n'utilise le mot englouti pour dire qu'il mange. Enfin, si maintenant, oui, mais ce n'était pas vraiment naturel. D'ailleurs, Moïse n'utilise qu'une autre fois ce verbe. Ah, quand est-ce qu'il l'utilise ? Il l'utilise en Exode 15. Il l'utilise en Exode 15 pour dire que l'Égypte a été engloutie par Dieu lors de la victoire quand le Pharaon et son armée ont traversé la mer. Par ce verbe-là, il crée un pont entre cette première défaite de l'Égypte et la grande défaite de l'Égypte à la fin des plaies. Pourquoi est-ce qu'il crée ce pont ? Parce que Dieu est vainqueur par avance. Et il en est de la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu est vainqueur par avance de tous les combats. Si le pouvoir de Satan est réel, il n'est pas absolu. Satan n'est pas plus souverain que Pharaon. Un seul règne, c'est notre Dieu. C'est lui qui remporte la victoire contre notre ennemi. C'est lui seul qui peut arracher nos amis, nos familles, nos voisins, nos collègues à la domination de Satan. Notre Dieu a triomphé par avance de tous ses combats. Il a définitivement triomphé de Satan à la croix. Il nous est dit que Dieu a dépouillé les dénominations, les autorités, qu'il les a livrées publiquement en spectacle, comme une dérision. Vous savez, c'était ce terme de spectacle fait appel à ce que les Romains faisaient quand ils avaient remporté une grande victoire. Ils rentraient dans le pays et ils traînaient derrière eux les esclaves, les trésors qu'ils avaient remportés. Dieu à livrer les autorités, les dominations en spectacle. Elles sont vaincues. Et il nous dit, mais regardez la croix et voyez que chaque combat a déjà été vaincu, mené. Le terme englouti est utilisé encore une fois quand il nous dit que la mort elle-même a été engloutie dans l'épître aux Colossiens. De la même manière que le peuple, nous regardons, nous assistons au combat entre Dieu et Satan, sans pouvoir prétendre y prendre part, mais pourtant, nous crions victoire. Quelques mots pour conclure. Dès le prochain chapitre, Dieu va passer à l'action. Et d'une façon extraordinaire. Les 10 plaies vont s'enchaîner les unes après les autres. Et c'est un déchaînement de puissance de la part de Dieu qui va s'abattre sur l'Égypte. Et nous devons comprendre que rien de moins n'est nécessaire pour racheter le peuple esclave. Il n'y a rien de moins de nécessaire que l'intervention puissante et radicale de Dieu que pour arracher les gens qui sont esclaves à Satan. Notre combat est de prier pour que Dieu intervienne dans leur vie, pour que la parole que nous annonçons touche les cœurs. Dieu n'a pas besoin de nos dons, il a besoin de notre obéissance. Dieu n'a pas besoin de nos succès, il poursuit son plan que lui seul connaît. Dieu n'a pas besoin de notre force, il a vaincu l'ennemi par avance. Prions. Notre Dieu, tu es un grand Dieu et tu le révèles encore une fois dans ce texte. Tu es pleinement souverain. Rien ne t'arrête, rien ne t'échappe. Rien n'échappe à ta volonté souveraine. Ce que tu veux, tu l'accomplis. Et finalement, ce pharaon qui paraissait si puissant les chapitres précédents semble plutôt maintenant un fétu de paille devant toi. Et nous voulons te prier pour que dans nos vies aussi, nous puissions apprendre à considérer ta puissance, reconnaître notre faiblesse quand nous annonçons l'Évangile, reconnaître que ce n'est pas nos talents, nos dons, notre capacité, mais que c'est ta parole et ta volonté qui accomplissent tes desseins. Nous te prions d'accompagner cela, d'être là, avec toi, auprès de toi, de porter cette parole et de regarder ce que tu fais. Notre Dieu, nous te louons parce que encore aujourd'hui, tu veux sauver. Encore aujourd'hui, tu veux racheter. Encore aujourd'hui, c'est un temps de grâce. Donne-nous d'être fidèles pour annoncer ta parole. Au nom de Jésus. Amen.